On se demande parfois de quoi on se souvient. Mieux vaudrait se demander comment. Dans mon cas, je le sais, c'est avec les chansons. Chaque période de ma vie a été définie, délimitée par les disques que j'ai réalisés et les chansons qui en sont ressorties. Elles ont été les bornes indissociables, orientant le cours de ma vie du fait de leur écho public ou de ce qu'elles disaient de ce que je vivais et de moments que j'avais traversés. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Dominique A.
Bonsoir.
L'extrait que je viens de lire pour ouvrir cette rencontre est tiré de Ma vie en morceaux, le livre dont nous allons parler pendant cette petite heure très privilégiée qui nous est offerte en votre compagnie. Bienvenue à Manosque.
Merci.
C'est la quatrième fois, donc on faisait les comptes, que vous êtes à Manosque. Vous êtes un fidèle de ce festival. Mmh. Première présence en 2002, c'était le tout début. Puis en 2004, puis quelques années après, et aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez à Manosque? Quel plaisir vous avez à y être? Est-ce que vous avez vu le festival évoluer?
Je me sens toujours bien accueilli. Je suis toujours heureux d'y aller. Je suis venu à des périodes différentes. C'est la première fois que je fais une rencontre vraiment purement littéraire, puisqu'en général, je venais pour des... Enfin, hier encore, j'ai fait une lecture musicale. Donc, je dirais que... mes souvenirs de Manosque aussi sont assez circonscrits à la salle Jean le Bleu. Donc je vois évidemment évoluer et en même temps il y a une permanence, mais moi j'aime bien quand il y a des choses comme ça qui ça bouge pas tout le temps, que ce soit qu'il y ait des repères. Donc je ne fais que passer en général, je reste un jour maximum deux, j'ai pas la chance de rester tout le temps du festival. Pas le temps d'assister à ce crescendo.
Jusqu'au bouquet final du dimanche.
Oui, c'est ça.
En tout cas, on est très heureux de vous revoir et on vous remercie de rester fidèle à l'événement au cours des années. Cela fera tout juste 50 ans samedi prochain que vous êtes né à Provins quand même.
Oui.
C'est pas rien. Que vous êtes né à Provins en Seine-et-Marne, où vous avez grandi jusqu'à vos 15 ans, dans ces terres brunes cernées de champs de betteraves. Rue des Marais, votre vie des Marais. C'était la chanson que cette rue vous a inspirée. Puis ce fut Nantes, le lycée, la chambre d'ado, le couvre-lit chenille jaune.
Alors ça, c'est une. En fait,
ça vous parle, hein? Ça vous parle, le couvre-lit chenille, quand même.
Oui,
c'est
oui.
Mythique. Et bien, Dominique Anet avait un couvre-lit chenille. Ça va? Vous l'avez assumé?
Oui, enfin, j'étais pas ni le propriétaire, ni le responsable de cet achat.
Vous aviez un détachement par rapport au couvre-lit chenille.
Un petit peu. Je me suis rendu compte avec les années que c'était quelque chose d'assez générationnel.
C'est ça. Et c'est complètement vintage maintenant. Ça doit valoir une fortune aujourd'hui.
Oui, probablement. J'aurais dû le garder.
Alors, il n'y avait pas que le couvre-lit jaune, le chenille dans votre chambre. Il y avait aussi un électrophone et des disques, évidemment, et un magnétophone 4 pistes. Cette chambre, c'était votre premier studio d'enregistrement.
Oui.
C'est là que tout a commencé. Après le PAC, vous étudiez les lettres modernes pendant une année à la fac. Vous exercez quelques petits boulots, et notamment homme à tout faire dans une radio nantaise. Ça veut dire quoi, homme à tout faire dans une radio?
J'étais grouillot, c'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelait le service civil quand vous ne vouliez pas... revêtir
l'armée.
L'uniforme, donc c'était deux ans pour le prix d'un. Et donc j'avais trouvé un boulot dans une radio écolo, nantaise. Mon travail principal consistait à paraphraser des articles de presse locale, parce que c'était une radio très bretonnante qui défendait l'idée que Nantes, c'est un vieux débat, est en Bretagne. Donc moi j'étais complètement indifférent à ça, parce que venant de Seine-et-Marne, tout ça me passait allègrement au-dessus de la tête, mais donc je vais finalement faire un petit peu de propagande dans ce sens-là, en paraphrasant des articles de Presse Océan et de Ouest France, qui sont la Provence de l'Ouest de la France. Et donc c'était assez stérile, mais en même temps c'était ça m'a fait écrire, mine de rien. Je pense que ça m'a servi, en fait. Je passais des disques aussi, je nettoyais, enfin je faisais un peu tout.
Un peu de tout dans cette radio-là. Un premier disque sort, le disque sourd, qui était autoproduit, et puis en 92, votre premier disque officiel, qui a le charme de la fossette et le courage des oiseaux. Un disque de bon augure, remué, mais la mémoire neuve, vous comprenez que tout ne sera plus tout à fait comme avant. À l'horizon, la musique, vers les lueurs et les ors. Depuis bientôt 30 ans, par les mots, par le son, vous explorez la fragilité sous toute latitude. À l'invitation de Brigitte Giraud, Provins vous inspire Y revenir, qui est disponible en poche aujourd'hui, où vous revenez sur le lieu de votre enfance et de votre adolescence, Provins. Elle le publie dans la collection La Forêt, chez Stock, qu'elle dirige, ainsi que quelques années plus tard, Regarder l'océan, lui aussi disponible en poche. Et en cette rentrée 2018, le livre n'est pas encore en librairie, on l'a en avant-première à Manosque. C'est donc Ma vie en morceaux que vous nous offrez aux éditions Flammarion, des morceaux de musique, des morceaux choisis. Vous nous racontez 26 chansons qui sont autant de chapitres de votre vie.
Oui, oui.
Alors, de leur naissance, ou bien les humeurs qui les ont traversées, le contexte dans lequel elles sont nées, parfois les rencontres qu'elles ont provoquées, suscitées, les surprises, les déceptions. Comment est-ce que vous avez choisi ces 26 morceaux ? Est-ce que vous aviez totalement carte blanche ? Est-ce que ça a été évident, ces 26-là ? Est-ce qu'il a fallu renoncer à certaines ?
Alors, au départ, on était parti avec l'éditrice Emma Sodin sur 20 morceaux et de fil en aiguille. Certains morceaux n'étaient pour moi pas incontournables, mais il y avait une histoire à raconter autour de ces morceaux-là et ils permettaient de finalement maintenir un fil narratif et faire en sorte que ce ne soit pas trop disparate. Donc, certaines chansons, je les ai prises parce qu'elles symbolisaient et représentaient quelque chose d'important à un moment donné dans mon parcours pour le public. Et d'autres fois, c'est des chansons qui sont des fois un petit peu accessoires, mais qui racontent une histoire intéressante pour détailler le parcours. Donc c'est à la fois un livre finalement qui est un autoportrait, et puis en même temps un livre, je crois, sur la création, l'acte créatif, quoi. D'où naissent les chansons, par quel filtre ça passe, d'où vient l'étincelle. Alors après, c'est assez particulier parce que j'ai rencontré une journaliste récemment qui m'a dit le livre est très bien, mais on ne sait toujours pas d'où vient la musique, d'où elle découle. Et j'ai l'impression d'avoir parlé pas mal de musique dans ce livre, mais c'est vrai que le pourquoi du comment, le moment T, l'instant T où la musique arrive et se déploie, c'est finalement une forme d'abandon. On n'est pas du tout dans la réflexion à ce moment-là, on est dans la création. Donc c'est vrai ça passe toujours dans les mailles du filet, en fait. Mais voilà.
Du coup, c'est 26-là qui émergent et qui sont restées, elles, dans le filet pour que vous leur accordiez un chapitre. À la fin de votre récit, je voudrais vous entendre d'abord sur ce sujet-là. Vous remerciez Brigitte Giraud, qui avait bien sûr compté dans votre parcours. Brigitte, donc, c'était cette éditrice chez Stock. Et vous la remerciez de vous avoir invité à l'écriture, de vous avoir mis le pied à l'étrier de l'écriture silencieuse.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette écriture silencieuse qui donc s'opposerait à l'écriture musicale, j'imagine?
Oui, l'écriture sonore, oui, ben c'est ça. C'est que l'écriture, je la pratiquais déjà depuis belle lurette, puisque en écrivant des chansons, évidemment. Le passage à la prose, c'est différent. C'est un rapport au silence, c'est un rapport au... un texte, je dirais pas faible, mais qui présente quelques moments un peu flottants, peut donner lieu à une chanson, on va dire, un peu meilleur que les autres par le rapport avec la musique. Mais là, on est à poil avec l'écriture littéraire. Il y a que du silence. Et c'est un rapport vraiment très intime à ce qu'on fait. Donc, ce silence-là, j'avais des réticences à essayer de l'approcher. Je ne m'en sentais pas ni la légitimité, ni le droit, ni les capacités. Et Brigitte Giraud, donc, qui est auteure par ailleurs et qui est auteure dont j'admire le travail, on s'était rencontrés il y a pas mal de temps parce qu'elle écoutait mes disques et elle m'avait envoyé son premier livre. Moi, à l'époque, je lisais pas de littérature française contemporaine, mais le livre m'avait plu. Et on s'est rencontrés véritablement en 2001 autour d'un. J'avais fait un disque qui s'appelait Augurie, et dans le même temps, elle sortait un livre qui s'appelait À présent, qui l'a révélé, en fait. Et j'étais plongé dans ce livre-là, dont j'avais lu un extrait dans une librairie, et j'avais acheté le livre, et j'étais plongé dans ce livre, et à un moment donné, je vois que je suis cité pour une musique d'enterrement. Bon, c'est pas...
Mais, un livre sur le deuil.
Ouais, et j'avais pas fait le rapprochement avec cette personne qui m'avait envoyé son livre quelques années plus tôt. Donc très très de fil en aiguille, on s'est croisé pour une interview dans un magazine. Et pendant des années, elle m'a dit je pense que tu pourrais essayer d'écrire. Moi, j'avais pas spécialement envie. Le jour est venu où elle a monté la collection La Forêt chez Stock. Donc ça, je pense, c'était je sais plus quelle année, mais et elle m'a un petit peu elle m'a relancé régulièrement. J'ai écrit un petit livre sur une petite maison d'édition qui s'appelait La Machine à Cailloux, qui était un livre qui s'appelait Un bon chanteur mort. C'était une collection où des chanteurs étaient amenés à parler de leurs pratiques musicales, les ressorts de la création, etc. Et pour moi, c'était un espèce de... C'était intermédiaire entre la littérature et autre chose, une forme de chronique musicale. Donc, il n'y avait pas d'enjeu littéraire pour moi. Elle a lu ce livre et elle m'a dit, là, je pense qu'il y a tel moment... Et c'était des moments justement où j'évoquais l'enfance, où j'évoquais le rapport à la musique via et le rapport justement, le rapport à l'enfance. Elle m'a dit là, je pense vraiment dans ces paragraphes-là, il y a un truc, tu devrais vraiment creuser ça. Et en fait, finalement, l'idée de d'écrire Y revenir, qui a été vraiment mon premier livre de littérature, est venue de cette observation et notamment de ce doigt pointé sur un paragraphe de Brigitte. Donc effectivement, je ne peux que la remercier de m'avoir mis le pied à l'étrier parce que c'était vraiment ça. Mais un peu tiré, même avec un... J'avais trop de... Je trouvais qu'étant chanteur, je n'avais pas le droit d'écrire en prose. Je trouvais que c'était une forme de, finalement, qu'on ne pouvait se consacrer qu'à un domaine, qu'on ne pouvait être légitime et compétent que dans un domaine. C'est pour ça que j'ai un peu freiné les cas de fer pendant longtemps. Je pense qu'il y avait un peu de forme d'orgueil aussi là-dedans.
D'orgueil ou de timidité? D'orgueil?
Bah, c'est la même chose.
Ah oui?
Les grands timides sont des grands orgueilleux, mais c'est la même chose. La timidité provient du fait qu'on estime qu'on est meilleur que ce que l'on donne, en fait, que l'image que les gens de vous. Donc, c'est de l'orgueil inversé. C'est de l'orgueil.
Si vous le dites comme ça.
Ah, bah, je connais bien le sujet.
A priori, oui. Vous parlez donc de cette écriture silencieuse. Est-ce que ça veut dire que pour celui-ci, qui donc, d'après ce que j'ai compris, a aussi été une invitation d'un éditeur, est-ce que c'est le cas pour oui. Ma vie en morceaux?
Oui, oui, tout à fait.
Ça a été aussi une invitation de Flammarion.
Tout à fait. J'attends qu'on vienne me chercher.
Voilà, vous restez dans votre coquille et on vient vous chercher.
Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma manageuse, on voulait faire un livre de... célébrant un petit peu pour la sortie du disque là, qui va sortir 25 ans d'activité, donc il y avait des paroles de chansons, on voulait mettre des images, de l'iconographie, mm-hmm. et accompagné de quelques petits textes additionnels en prose sur la naissance des chansons. Sandrine, ma manageuse, a démarché, Emma Sodin de Flammarion a été intéressée et, en nous disant ça m'intéresse, mais j'aimerais bien développer l'aspect écriture plus oui. que l'aspect iconographique. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, toutes les images sont passées à l'as parce que ça devenait un livre d'écriture. Je ne voulais pas entendre parler de littérature, je freinais là aussi des cas de fer en disant attention, moi je veux vraiment rester sur un rapport où je vais parler avant tout de musique. Et puis finalement, j'ai été rattrapé par mes démons. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était que c'était un livre, on m'a proposé de l'écrire à un moment où je sortais un disque en mars dernier, donc on s'est rencontrés en février, et où je partais en tournée, où a priori il était impossible d'avoir le temps d'écrire. Et cette urgence-là, justement, m'a mis, je crois que c'était très moteur.
Elle a été moteur.
Ouais, très moteur, parce que dans chaque interstice de mon emploi du temps, je me plongeais et j'étais... Le mot n'est pas très beau, mais efficace par rapport à l'écriture.
Vous alliez à l'essentiel et...
Oui, je finassais pas trop. Et ça permettait justement de garder un rapport un petit peu, un peu brut à l'écriture. Et j'aimais cette idée-là, en fait. Mm-hmm.
Alors, quand vous parlez d'écriture silencieuse, c'était la deuxième partie de ma question. Est-ce que ça veut dire que pendant l'écriture de celui-ci, vous n'avez pas eu besoin d'écouter de musique? Est-ce que chacun des chapitres... était nécessairement lié, au contraire, donc à l'écoute de la chanson qui le concernait, ou d'autres chansons. Quelle place a eu la musique pendant l'écriture de Ma vie en morceaux?
Bah, elle avait une place prépondérante dans la mesure où j'en faisais un peu tous les jours.
Oui, mais en dehors des temps d'écriture.
Mais en fait, par rapport aux chansons qui sont abordées, non, il n'y avait pas eu de réécoute ou je ne me suis pas plongé dans les chansons, soit parce que j'étais en train de les jouer. Soit parce qu'elles sont inscrites en moi. Leur histoire, justement, ce que j'avais envie de raconter, c'est qu'elles étaient rattachées à des moments particuliers. Et c'était l'intérêt de la chose, en fait. C'était, finalement, pour moi, l'enjeu, c'est pas de raconter ma vie. En fait, c'est pas très intéressant en soi. C'est plus d'utiliser ma vie comme un matériau et d'utiliser aussi mon parcours, les chansons comme un matériau pour écrire.
Mmh. C'est comme si de votre vie naissent des chansons, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg pour le public et le public qui vous écoute. Et là, de revenir à la source de ces chansons et de comprendre un peu mieux d'où elles viennent. Alors, vous avez fait un choix chronologique, puisqu'elles paraissent chronologiquement dans le livre. Donc, j'en cite quelques-unes, parce que les fans qui vous suivent connaissent bien, évidemment, tout votre travail, mais beaucoup d'entre nous, finalement, sans même vous suivre de très près, connaissent vos chansons. Je cite Antonia, L'Horizon, Rue des Marais, on en a parlé, Manque-moi moins, Éléor ou Le Ruban. Il y a des grands succès qui sont devenus des incontournables de la chanson française. Il y a des chansons qui sont restées plus confidentielles. Vous ne vous êtes pas attaché aux chansons que tout le monde connaît et qui sont restées à travers. Certaines ont aussi perdu un peu de leur énergie, mais elles ont une histoire et vous y tenez et vous y attachez. Vous êtes attaché, vous, pour d'autres raisons.
Oui, tout à fait. Après, il y avait des chansons un peu incontournables, comme Le Courage des Oiseaux ou 22 Bar ou Rendez-nous la Lumière. Bon, je ne pouvais pas ne pas parler de ces chansons-là. J'avais envie d'en parler. Mais c'est vrai que mon choix n'est pas en dehors de ces quelques, on va dire, ces quelques bornes. Je me suis accordé des chemins de traverse par rapport aux chansons pour le plaisir du récit, la chose qu'il y avait à raconter et le fil narratif qu'il y avait à développer en passant d'un texte à l'autre, puisque sinon ça peut paraître très découpé, très disparate,
très morcelé.
Bon, bah, c'est le titre un peu de mais il fallait que ce soit lisible comme un... Que ce soit un déroulé, quand même.
Oui, que ce soit fluide et que ça se déroule. Les chapitres, donc on en a 26. On a à chaque fois le titre de la chanson du chapitre en question. Le titre, le chapitre qui raconte donc la naissance de la chanson, d'où elle vient, à quel moment de votre vie elle est rattachée. Puis, en italique, le texte de la chanson. Sans que le titre de la chanson ne soit rappelé.
Oui.
C'est-à-dire que le titre de la chanson a glissé en titre de chapitre, comme si le titre de la chanson devenait un titre de chapitre de votre vie.
Oui,
Est-ce qu'il y a eu réflexion sur cette mise en page là?
C'est ça, en fait. L'idée, en fait, sous-tendait, c'est presque une exagération, c'est de dire les chansons font tellement tache d'huile sur ma vie personnelle, plus que le contraire, en fait. C'est presque plus les chansons qui se répandent sur ma vie, plus que ma vie qui se répand dans mes chansons. Voilà, c'est comme des... Oui, ce sont véritablement, c'est à la fois des morceaux de musique, ce sont des moments. Ce sont des moments qui sont des fois des moments, en plus, qui se développent sur le long terme, puisque une histoire continue à s'écrire. Et c'est un rapport au temps aussi. C'est-à-dire que la chanson, c'est un vrai rapport au temps, c'est un rapport à un compagnonnage qu'on a avec une chanson. C'est le temps qui se déploie aussi, ou qui s'arrête. C'est-à-dire que la chanson, si elle passe à l'as, ben oui, il n'y a plus d'histoire à créer, mais il y a des chansons comme ça. Bon, bah, je pense au Courage des Oiseaux, parce que c'est vraiment la chanson grâce à laquelle j'ai pu continuer et que je continue à chanter systématiquement. Et il y a vraiment un rapport au temps, il y a vraiment un rapport au vieillissement, à l'évolution aussi de l'artiste que je suis, quoi, en fait. Et c'est des questions qui m'intéressent vraiment, presque plus que l'histoire des chansons elles-mêmes.
Vous parlez de Courage des Oiseaux, on va y revenir, mais avant celle-ci, vous commencez par frustrer votre lecteur, puisque vous ouvrez votre ouvrage sur la chanson d'avant les chansons, toute première. Avant les chansons, qu'y avait-il ? Une seule et même chanson restée confidentielle, déclinée sur tous les tons, reprise jour après jour en séquences indifférenciées. Confinée dans une chambre d'enfance, puis d'adolescence, consignée à longueur de cassette, soigneusement illustrée et annotée. Un ami m'en subtilisa une un jour. J'en fus mortifiée. La chanson n'était pas destinée aux autres, elle n'était pas prête, pas encore. Elle qui ne verrait pas le jour essuyait les plâtres, traçait le chemin de toutes les autres, celle qui un jour serait achevée et se ferait un chemin vers l'extérieur, l'en dehors de la chambre. Alors on se dit que vous allez nous l'offrir, nous lecteurs, cette chanson-là. On nous dit, ah ben voilà, la chanson secrète de Dominique. Ah,
on peut
ben
toujours non. frustrer on un peut, petit on, peu voilà, on peut le toujours lecteur courir. Ou l'éditeur, il ne faut pas tout donner.
C'est ça. Donc celle-ci, jamais, jamais on y aura accès. Cette chanson-là, alors, sans la dévoiler, nous parler de l'importance de cette première chanson qui est à l'origine de tout.
Oui, alors quand je parle de la chanson, pour moi, c'est plein de chansons, mais qui n'en font qu'une, en fait, puisqu'elles sont restées confidentielles. Donc, c'était un travail pour moi comme sur une seule chanson. Donc, il y a une chanson comme ça qui a été dévoilée bien après, qui figure sur le premier enregistrement que j'ai réalisé. J'avais 12 ans. C'est une chanson qui s'appelle « Agonie d'un soleil », ça commençait bien. Et cette chanson-là, en fait, c'était tout à fait... C'est ça, c'est les prémices. Et c'est celle qui, finalement, aujourd'hui, elle, en ayant une existence publique, finalement, elle légitime presque toutes celles qui n'ont pas été rendues publiques avant, véritablement, que je sorte mon premier disque. Donc, pour moi, c'est un travail qui a commencé... À partir, je le dis dans le bouquin à un moment donné, qui a commencé à partir du moment où j'ai mis les doigts sur le magnétophone de mon père et j'ai fait play record. Pour moi, le travail, il a commencé aujourd'hui, ce jour-là. C'est-à-dire, c'est pas le jour où j'ai sorti mon premier disque, là, j'avais 23 ans. Non, c'est quand j'avais 12 ans et que j'ai fait play record. Ça a commencé. Et pour moi, aujourd'hui, c'est presque une performance le temps d'une vie, en fait. Y a une petite maison de disques qui me propose de ressortir mes enregistrements, justement, d'adolescence, qui sont des choses qui sont... a priori, pas très écoutable, puisque j'enregistrais sur un grille-pain et tout, mais pour moi, ça fait partie d'une démarche, en fait. C'est important.
Puis aujourd'hui, dans un même mouvement. C'est un mouvement continu.
C'est un mouvement continu et qui s'arrêtera quand l'Ankou viendra me chercher. Alors, oui, l'Ankou, c'est breton, donc c'est la faux, quoi. Hein.
Et Nantes, c'est la Bretagne.
Oui.
Vous avez évoqué votre père rapidement dans cette phrase-là. Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison ? Est-ce que enfant, il y avait des chanteurs ? Est-ce que c'était le classique Brel, Brassens, Ferré,
voilà.
etc.
Ferra.
Voilà, Ferra.
C'était et bien un ça. Peu d'Anne Sylvestre pour ramener un peu de féminité
dans ce trio-là.
Mais oui, c'était eux. C'était eux. Après, moi, Brassens me faisait peur. J'avais l'impression qu'on allait m'engueuler quand je l'écoutais. Mais,
est-ce qu'il disait des gros mots ?
Non, il y avait un côté l'oncle grivois qui va... pas clair. je préférais Ferré, mélodiquement aussi. Brel, bien sûr. Brel, en fait, le premier choc, ça a été une chanson qui s'appelle « La Fanette ». J'avais 7 ans, j'ai entendu ça. C'est pas la meilleure chanson de Brel. Elle est assez mélodramatique. C'est l'histoire d'un. C'est une chanson avec un trio amoureux dont un des protagonistes est le dindon de la farce. Enfin, et qui voit son amour de jeunesse disparaître avec un autre, la fanette, et puis mourir dans les flots. Et gamin, j'ai entendu ça et j'étais. Ça a changé ma vie. Cette chanson a changé ma vie. J'avais l'impression que cette émotion-là, ce drame-là, renvoyait de façon étrange, parce que moi, c'était une vie tranquille. Mais j'avais l'impression que ça répondait fondamentalement à des émotions qui étaient en moi et qui n'arrivaient pas à s'exprimer. À partir de ce moment-là, le pli était pris, quoi, vraiment. Cette chanson-là a vraiment fait bouger toutes les lignes en moi, vraiment.
La première officielle, la première sur le premier album, c'est « Le courage des oiseaux ». Donc c'est le deuxième chapitre que vous lui consacrez. « Le courage des oiseaux », je ne les ai pas vus, juste entendus. Je marchais sous un vent glacial et ne me suis pas arrêtée. Mais leur chant m'a frappée. Où puisaient-ils la force ? Dans quelle ambiance polaire ? À quoi ressemblaient-ils ? Peut-être n'y en avait-il qu'un ? Survivraient-ils à l'hiver ? Je suis rentrée chez moi et me suis comme d'habitude enfermée dans ma chambre. J'ai sorti le gros cahier de texte rouge de son tiroir et j'ai noté cette phrase. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Ça suffirait pour aujourd'hui, je compléterai plus tard. Pardon d'avoir buté sur le début. Le courage des oiseaux, vous dites qu'un concert de votre part sans le courage des oiseaux, c'est un concert bancal.
Oui, c'est très étrange. C'est pour moi, c'est un pilier. Ça soutient tout l'édifice et c'est vraiment un morceau avec lequel j'ai aucune lassitude. J'ai l'impression que j'ai encore des choses à créer avec ce morceau-là. Alors, je dirais pas que c'est la magie tous les soirs, hein. Mais bon, il a une place particulière parce que sans lui, je pense que je serais pas devant vous. Mais c'est aussi là aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le travail en continu, sur le temps qui s'écoule et la performance permanente, en fait. Pour moi, il est le socle de cette performance.
Aventure ou histoire qui s'est déroulée ensuite. Avec cette chanson-là, vous apprenez donc très tôt les glissements possibles entre l'intention que l'on peut avoir ou mettre dans une chanson et sa réception ou son aboutissement.
Oui.
Vous écrivez « Le courage des oiseaux » que j'avais fini d'écrire et enregistré sur mon 4 pistes ouvrirait le disque. C'était musicalement une sorte de décalque du Blue Monday de New Order. Vous pouvez écouter le morceau sur Internet, vous verrez les échos. Je le savais, mais le chant en français me semblait emmener le morceau ailleurs. De toute façon, peu m'importait de piller le son d'un groupe que je n'avais jamais beaucoup aimé. J'étais fière du texte, qui me semblait traduire au mieux ce que je ressentais, cette absence de courage, physique surtout, qui me compliquait l'existence depuis le début. Je mis longtemps à comprendre que la chanson se référait avant tout à la fin d'un amour ou à la tentation d'en finir.
Oui.
Cette chanson-là vous enseigne le glissement.
Oui, complètement. J'ai mis 20 ans à comprendre ce que ça racontait. Alors c'est pour ça, quand les gens me demandent de quoi parle une chanson, des fois je suis un peu emmerdé parce que des fois je ne le sais pas moi-même. Enfin, évidemment, il y avait le thème du courage, mais véritablement, je crois que ce qui est à l'origine de la chanson, c'était une déception amoureuse et puis une envie de se foutre en l'air. Et c'est le jour où vous vous rendez compte de ça, c'est assez troublant. En fait, il y a plein de chansons comme ça dont le sens est transparent et en fait, en même temps, l'interprète et l'auteur est le premier dindon de la farce, comme si la chanson le menait par le bout du nez, en fait.
Cette chanson dit, et c'est toujours étrange de les lire, les chansons, quand on les a toujours écoutées. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, tourne ton dos contre mon dos, que vois-tu ? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux.
Oui.
Est-ce que de les... Alors, il y a bien sûr le fait de les écrire puis de les interpréter, mais est-ce que de voir vos chansons écrites en italique, au sein d'un ouvrage, là, cette fois-ci. Est-ce que vous les avez redécouvertes différemment ? Est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont surprise, mises en forme de cette manière-là ?
En fait, pour moi, j'ai jamais été très client des recueils de textes de chansons. Parce que la chanson, pour moi, c'est pas... Elle a maille à partir avec la poésie, mais c'est pas le même enjeu. Donc j'ai toujours trouvé ça un petit peu contradictoire. C'est la chanson, le rapport d'une chanson, c'est vraiment justement cette interaction qui rend la chanson intéressante. C'est pas forcément le texte en lui-même.
Interaction, texte, musique.
Voilà. C'est donc le fait. Pour moi, c'est plus là dans le livre des sortes de, non pas de béquilles, parce que c'est pas le mot, mais en tout cas de complément au texte sur elle-même. Parce que et puis c'est une façon aussi de replacer la chanson dans son rapport justement. Alors ça va être un peu contradictoire, mais aux mots. C'est-à-dire que j'ai longtemps été persuadé qu'une chanson, avant tout, c'était musical, que peu importait ce qu'on racontait, ou alors le sens devait s'effacer au bénéfice de la musique. Aujourd'hui, je pense, comme plein de gens, le contraire. Je pense que les gens s'accrochent avant tout à, des fois, une phrase, ou un mot, ou une expression, et que finalement, la chanson, même musicalement, gravite autour de ça. Et que la musique vient, en quelque sorte, consolider ce rapport qu'on va avoir avec une phrase, une tournure. Là, je pense que la chanson, elle existe et elle continue sa vie parce qu'il y a ce refrain « Si seulement nous avions le courage des oiseaux » qui chante dans le vent glacé comme un petit haïku, quoi. Et en fait, ça résonne. C'est un truc qui résonne chez beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait que la chanson continue. Et c'est pas sa musique. C'est pas sa musique. C'est le rapport aussi après avec la mélodie. Mais c'est pas la musique elle-même.
Vous expliquez que dans chaque album ou à chaque projet qui naît, vous sentez assez vite quelle chanson va tenir le projet ou de quelle chanson il va entièrement découler. Est-ce que de la même manière, un cran encore plus profond et encore plus proditexte, vous avez dans certaines chansons la phrase qui la tient ? Est-ce qu'il y a un noyau dans chaque chanson comme il y a un noyau dans chaque album ?
Oui, bah c'est souvent le titre.
Hein. Souvent le titre, d'accord. Ouais, c'est la phrase-là que vous mettez.
Alors, pas systématiquement, mais c'est comme la première phrase d'un livre, en fait. Alors, je suis désolé, je m'autocite, mais il y a une chanson qui s'appelle L'Horizon. La première phrase, c'est « Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine ». Et quand j'ai trouvé cette phrase-là, je ne savais pas du tout où le texte ou la chanson allait m'emmener. Simplement, je me suis dit « Bon, là, il y a vraiment une histoire en germe, quoi. » Il y a vraiment... Et c'est cette, justement cette Puis je trouvais ça assez rigolo de commencer un disque en disant nous n'irons pas plus loin. J'aime bien les débuts un peu démoralisants parce que voilà, nous n'irons pas plus loin et puis il faut tenir 50 minutes derrière. Moi, ça m'amuse. Mais bon, je l'ai fait plusieurs fois. Comme dans le prochain, il y a la première phrase, c'est la poésie s'en est allée. Bon, bah, au revoir, quoi.
C'est
en tout cas, il y a toujours une idée de déplacement. Mais c'est ça. C'est ce rapport-là au. Finalement, c'est ce que disait Jean, enfin plein d'auteurs le disent, hein, Philippe Jean disait, moi j'écris les livres pour savoir où ils vont m'emmener, ce que je vais dire en fait. Et quand on écrit des chansons, c'est strictement la même chose. Je crois que le meilleur service que vous ayez à donner à un morceau ou à quelques créations que ce soit, c'est de ne pas la charger de trop d'intentions et d'aller à la rencontre de ce qu'elle va vous raconter, mais dans tous les domaines.
Alors, ce qui est très touchant dans ce livre-là que vous nous offrez, c'est que justement, on a accès parfois à la légèreté ou au hasard de la phrase qui va déclencher une chanson. Et c'est donc le cas dans l'horizon, hein, comme vous avez cité cette phrase qui ouvre la chanson. Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Voici dans quel contexte est arrivée cette phrase-là. Vous êtes en voyage au Groenland et vous partez donc en bateau avec d'autres touristes. Le lendemain, nous partîmes avec d'autres touristes en bateau sur le fjord jusqu'à un glacier, au pied duquel l'embarcation stationna le temps de quelques photos. Un Français évoqua une réplique du capitaine Haddock, et une phrase me traversa l'esprit. « Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. » Le fil n'avait plus qu'à se dérouler, ce qu'il fit, durant les 4 heures de traversée qui suivirent. Donc pour tous les fans absolus de la chanson « L'horizon », sachez que le capitaine en question, c'est le capitaine Haddock. Un petit peu.
C'est une... ouais, ouais. Au départ, c'était lui. Après, c'est devenu quelqu'un d'autre. Hein.
Bien sûr.
Je visualise
mais
pas.
À la source du capitaine, il y a le capitaine Haddock.
Ouais, et puis à la source de la chanson, il y a tout simplement le fait de s'arrêter face à un glacier et se dire bah, on n'ira pas plus loin. Donc, de fait, c'est deux choses conjointes.
Ils sont indissociables. Pour revenir au Courage des oiseaux, je voulais aborder encore un tout petit point sur cette chanson-là, qui est, on l'a compris, assez fondatrice. C'est au cours de l'écriture du Courage des oiseaux que vous écoutez un disque de Murat, qui, je crois, vous marque profondément, où il dit, vous dites « Il y chantait du bout des lèvres, sans forcer. Je m'étais promis d'en faire de même, de ne pas brusquer les chansons. » C'est une très belle expression. Quand on vous écoute, on sent toute la... délicatesse de votre voix par rapport à la chanson qui est tout en douceur et elle est absolument pas démonstrative, je crois, votre voix.
Ouais, j'espère.
En tout cas, oui, enfin, moi, il me semble, mais j'espère que le mot vous convient en tout cas.
Oui, tout à fait.
Donc, ni dans les trop aigus, ni dans les trop graves, ni avec des variations très très fortes, elle est plutôt sur une variation assez étroite, en tout cas. Et du coup, il y a ce rapport-là à ce que Murat vous a transmis avec cette chanson-là. Avec son travail à lui.
Oui, c'est marrant parce que alors Murat, en fait, il a fait une chose, c'est qu'il a repris un peu les préceptes de Jean Sablon, quoi. C'est-à-dire que...
Les préceptes de qui ?
De Jean Sablon, c'est-à-dire un chanteur des années 30 ou 40.
Bah oui, j'ai appris Épicène aujourd'hui, alors je ne peux pas connaître Jean Sablon en plus.
C'est-à-dire...
Je ne connais pas Jean Sablon. Non, toute seule, puisque tout le monde sait qui est Jean Sablon.
Je connais pas une chanson de Jean Sablon, mais je sais que ça a été il a été très décrié quand il est arrivé, parce que ça a été un des premiers chanteurs de variété à utiliser le micro. C'est-à-dire qu'avant lui, tous les chanteurs devaient donner de la voix comme des chanteurs lyriques, en fait. Et lui, il a dit non, justement, pour faire passer d'autres émotions, il faut utiliser l'amplification et les bienfaits de l'amplification pour faire passer d'autres choses. Et en fait, je trouve que c'est une bonne idée de procéder comme ça, surtout par rapport à une langue comme le français qui est assez peu, alors, accentuée. Mais c'est-à-dire qu'en termes de phonétique, c'est vrai que c'est une langue qui est peu accentuée. Alors, il y a des accents différents, mais c'est une langue qui ne gagne pas forcément à être manipulée avec le lyrisme, enfin... C'est un problème un peu délicat. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que finalement, de par ma culture parentale, discographique parentale, je me suis référé beaucoup à des chanteurs qui étaient des chanteurs très lyriques, justement, qui étaient à contre-courant de cette idée d'utiliser le micro de façon d'ouvrir beaucoup de micros. Des gens comme Ferré, comme Brel sont très expressifs. C'est une forme d'expressionnisme. Ils ne sont pas du tout dans la retenue. finalement, dans la démarche, alors que c'est quelqu'un que j'ai moins écouté, je me sentirais plus proche d'un Brassens, justement, qui était dans une forme de neutralité par rapport au chant, qui est une forme de refuse la démonstration. Donc le rapport au français, il est intéressant par rapport à ça aussi, parce que Emura a ramené ça, il a renoué avec ça, avec le fait de revendiquer véritablement, d'être dans une forme de neutralité et d'utiliser le micro pour faire passer une suavité qui fonctionne bien avec la phonétique du français. Le risque, c'est d'en faire une loi d'airain, quelque chose qu'on peut pas incontournable, parce que je pense qu'il y a plein de contre-exemples, justement. Les gens en parlaient, Ferré, Ferra. Après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Il y a eu Catherine Ringer, il y a plein de gens comme ça qui ont prouvé qu'on pouvait justement chanter le français de façon très expansive. Mais moi, c'est vrai que j'ai une culture de musicale anglo-saxonne et où finalement, j'ai toujours trouvé que ce qui manquait à la chanson en France, souvent, c'était l'élégance qu'il y avait dans les musiques, souvent anglaises notamment, et que ce manque d'élégance provenait souvent d'une espèce de lâcher-prise dans la voix, espèce de déballage tripal, moi qui m'a toujours un peu rebuté, mais c'est une histoire de tempérament, je crois.
Oui, et de sensibilité et de nature. Dans votre ouvrage, vous n'hésitez pas non plus à évoquer les moments plus difficiles, les déceptions, et puis les malaises qui parfois s'emparent de vous, parce que c'est pas toujours simple de devenir une personne publique, une personne reconnue. Vous évoquez notamment le succès de la réception de la chanson 22 Bar, et donc cette difficulté de ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose qui vous échapperait. Vous écrivez donc au succès de cette chanson au 22 Bar. Je n'étais pas prêt, je sentais que tout me filait entre les doigts. On voulait faire de moi un chanteur de pop inoffensif. Je freinais des quatre fers, c'est une expression que vous avez déjà employée plusieurs fois.
Tout le temps je dis ça.
Freiner des quatre fers, c'est votre expression. Et Vincent, donc votre producteur, que l'argent n'intéressait pas, me soutint. Je ne pouvais pas faire autrement. Des années se passeraient avant que je ne prenne la mesure de ce à quoi j'avais renoncé. C'est pas toujours facile. C'est pas
oui, alors simple. Je voudrais pas donner une image trop calimériesque de moi-même.
Non, parce qu'elle vous le dites avec justesse, avec précision, mais c'est pas toujours simple.
Oui, c'est pas ça. Enfin, disons que c'est quand on n'est pas préparé à une exposition publique, ce qui était mon cas, parce que moi, j'attendais pas grand-chose de la vie, en fait. Donc, je pensais que rien ne m'arriverait, vraiment. Et puis, des choses me sont arrivées. C'est vrai que j'ai dû... J'étais pas dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut absolument parvenir à être connu, par exemple. J'étais ravi que mes chansons soient entendues, mais j'avais un rapport à l'exposition publique très compliqué. Donc c'est vrai que cette chanson qui à un moment donné a émergé et qui avait beaucoup de succès, ça m'a un petit peu tétanisé. Je me sentais pas prêt, tout simplement, à cette attention portée sur moi. Puis j'avais cette chance incroyable d'être avec un producteur qui était pas du tout intéressé. Que l'idée même de gagner l'argent révulsait. Donc c'est assez rare pour être noté.
Mais pour un producteur,
c'est... Pas très macronien pour le coup, mais voilà, j'ai eu cette chance finalement. Après, c'est vrai que ça avait un prix, cette démarche-là. Et ça m'a permis justement le fait d'avoir cette envie de retrait et de freiner des quatre fers. Ça m'a permis de finalement de rebondir. Et de construire quelque chose sur la longueur. Parce que sinon, je pense que j'aurais été en quelque sorte englouti par quelque chose que je n'aurais pas compris. Ça m'aurait dégoûté. Et puis, j'aurais arrêté. Je pense. Parce que je pense que ce qui peut arriver de pire à quelqu'un, c'est d'avoir vraiment beaucoup de succès. Ce qui est bien, c'est d'être reconnu, d'être attendu, d'avoir une attention. Mais le succès public exagéré, c'est juste un enfer à vivre. Donc vous n'avez plus de vie
personnelle, intime.
Personnel. Alors il y a un paradoxe, parce qu'il y a des gens qui s'en plaignent et puis ils ont tout fait pour y arriver. Mais moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit-là.
Il y a une autre idée que vous développez dans votre livre qui m'a particulièrement retenue. On peut, je pense, avoir tous en tête l'idée que les chansons que vous composez, que vous écrivez, que vous interprétez sont le reflet de moments de vie, dans le prolongement, suite à une émotion, un épisode dans votre vie, naît une chanson. Mais vous avez un autre point de vue qui est vraiment intéressant. Je vous lis les deux passages qui s'y réfèrent et je voudrais vous entendre sur ce sujet-là. Vous dites dans le chapitre consacré à la chanson « Comment certains vivent », le disque devint le réceptacle des tiraillements, des frustrations et de la rage que je sentais sourdre en moi. Le son souffreteux, les rythmes concassés, les samples boiteux et le chant rentré et froid, rejetant toute expressivité, en était la traduction. Je désaccordais sciemment ma guitare lors des prises. Rien ne devait aller de soi. Il fallait faire exploser tous les cadres comme une préfiguration de ma vie personnelle à venir. Là, vous êtes dans la composition de l'album Remuer. Quelques pages plus loin, on est dans un autre chapitre. Vous avez composé des chansons pendant un vol en avion en Espagne. Et pendant votre séjour en Espagne, votre grand-père décède. Et au retour, voilà les réflexions que vous avez. Durant le vol, j'ai relu les deux textes écrits à l'aller. Ils étaient emplis d'inquiétude et prémonitoires. Un ami m'avait prévenu une fois. Il faut accorder toute son attention à ce qu'on écrit. L'écriture nous devance. Elle en sait souvent plus que nous.
Oui, je crois que c'est... Enfin, je crois que c'est vrai, évidemment.
Mais priori,
je souscris à mon propre point de vue. Oui, c'est assez troublant, en fait. C'est une. La chanson est une pitié. Et des fois, ça délivre des vérités ou des. Finalement, elle est le reflet par avance de tout ce qui va advenir, en fait. Alors, on peut toujours interpréter aussi et surinterpréter en disant ah bah oui, mais ça je l'avais dit, ça m'est arrivé, c'est normal, c'était dans la chanson. Bon, il y a des fois c'est un peu exagéré, mais il y a quand même ce truc là, c'est quand même assez particulier. J'écrivais ce texte qui s'appelait Jusqu'à ce que el cuerpo aguante, ce qui veut dire jusqu'à ce que son corps le lâche, et j'apprends la mort de mon grand-père. Et effectivement, l'album dont vous parlez, Remet, où c'était vraiment j'essayais de faire exploser tous les cadres, où j'étais hyper teigneux, où. Et c'était juste une annonce de ce qui allait se passer après dans ma vie privée, personnelle, où j'allais vraiment tout
faire exploser, tout bousiller.
Aussi. Donc, c'est troublant. Donc, j'essaye de ne pas faire trop gaffe à ce que j'écris. Hein,
mais... c'est avant-gardiste ou du coup, c'est un reflet quand même, mais de choses qu'on ne perçoit pas tout de suite.
Oui, complètement. Oui,
qui,
oui.
Du coup, vont se, oui, qui se vont dérouler se après.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Autre chose, parce que c'est évidemment un aspect très important de votre travail, c'est votre rapport à la littérature. On ne peut pas être à Manosque sur cette scène et ne pas du tout l'évoquer. Dans ce livre-là, donc, c'est le chapitre qui s'appelle Antonia, cette chanson que vous avez écrite aussi, où vous écrivez « Il pleuvait et j'entrais dans une librairie pour m'abriter ». Ça, c'est déjà un avantage de la librairie. Chose inhabituelle, je m'attardais sur le rayon français contemporain. Un titre m'intrigua, « Celui qui n'est pas là » de Dominique Fabre. Jamais entendu parler. Moi, j'avais jamais entendu parler de Jean Sablon, vous voyez. Voilà. Jamais entendu parler, je ne lisais que des morts. Le fait qu'ils soient passés entre les mailles de l'oubli me paraissait un indicateur sérieux de leur valeur. J'avais encore besoin de ce genre de critères. Je ne me fiais pas à mon propre jugement. Vous avez dit tout à l'heure, je ne lisais alors que les morts. Alors, première question, quels étaient les morts que vous lisiez? Et effectivement, que le temps avait trié pour vous?
Bon, c'était du classique, hein. C'était je sais pas, c'est Alain Fournier, Dostoïevski, comment il s'appelle, McCullers,
Carson
McCullers. Voilà, j'en cite quelques-uns. Je lisais pas énormément. En fait, je suis redevable à ce temps de cochon qu'il y avait ce jour-là et qui m'a permis de rentrer dans une librairie plutôt que dans un supermarché. Parce qu'effectivement, j'avais un rapport assez distancié à la littérature. J'étais déjà identifié comme un chanteur littéraire, parce qu'en France, on aime bien cette petite case, les chanteurs littéraires. On me disait tout le temps, vous êtes un chanteur littéraire, alors que moi, ma culture était surtout, c'était surtout la musique, la presse musicale, c'était la bande dessinée, et je lisais un petit peu de littérature, mais j'étais pas un grand lecteur. Et cette intrusion dans la librairie a changé ma vie, parce que je me suis dit, ah, attention, apparemment, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui et qui sont des bons auteurs. Et des auteurs francophones en particulier. Et c'est là que j'ai commencé à finalement être dans un rapport compulsif à la lecture et à vouloir rattraper mon retard tout en finalement en ne cherchant pas à rattraper, à acquérir une culture classique que je n'avais pas, mais plutôt à m'intéresser à la littérature d'aujourd'hui. C'est un choix presque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, bon, le choix est tellement vaste que je préfère aller à la rencontre de ce qui se fait aujourd'hui plutôt que de tout ce que je rate en ne connaissant pas. Alors, ça m'arrive de lire quelques classiques, mais je suis toujours rattrapé, si j'ose dire, par, par la nouveauté, par le livre qui sort. Je suis très, très, très en demande de ça, quoi.
Vous dites, du coup, que cette littérature, bien sûr, nourrit l'écrivain de chansons, de textes que vous êtes, et qu'il faut parfois que vous vous reteniez
oui.
de ne pas trop puiser dans cette littérature-là.
Oui. Mais
il y a vraiment cette idée de vous brider un peu.
Ben, je suis redevable à Manosque, justement, la première fois que je suis venu, dont j'ai rencontré, c'était en 2002. J'ai fait une lecture musicale d'auteurs que je lisais. Alors, ça allait justement de vivants comme Pierre Bergugnou. Il y avait aussi, je lisais un extrait de Milena Genzenska, qui était une proche de Kafka, qui écrivait des chroniques dans des journaux. Il y avait des gens comme Richard Morvieff. Bon, je lisais leurs textes parce que j'adorais leur écriture. Et je mettais en musique. Et ce jour-là, en fait, à cette occasion, j'ai rencontré pas mal d'auteurs. Et ça m'a, en quelque sorte, introduit dans cet étrange milieu qui me changeait bien de mon milieu musical. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de lectures qui en ont découlé aussi. Et beaucoup d'idées. C'est-à-dire que je lisais tellement et j'étais tellement imprégné par ce que je lisais que souvent, c'était déclencheur pour des chansons. Alors des fois, c'était des fois juste un bout de phrase que j'allais piocher qui n'était pas forcément le point de départ de la chanson. Je me rappelle notamment, il y avait dans un texte de Frédéric Yves Janet, il parlait des grands cargos griffères. J'adorais cette expression, donc je lui ai demandé est-ce que je peux utiliser ta phrase avec cargo. Il l'aurait pas forcément remarqué. Et d'autres fois, c'était vraiment le point de départ de la chanson. Il y avait un livre d'un Albanais, Luan Starova, qui s'appelait Les rivages de l'exil, dont j'avais tiré une chanson, Les clés, qui parlait de l'exil, et l'argument, c'était le rapport à la clé de la maison qu'on emporte, qu'on garde sur soi, en espérant pouvoir un jour la réutiliser. Et donc, c'était compulsif, c'est-à-dire que tous les livres que j'aimais me donnaient envie d'écrire des chansons. Et il y a un album comme ça qui est né en 2004 qui s'appelait Tout sera comme avant, et où vraiment il y avait ce rapport très, 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 très fort et qui avait donné lieu même à un livre de nouvelles qui était sorti chez Vertical, où j'avais demandé à une quinzaine d'auteurs d'écrire sur simplement le titre de la chanson. C'est-à-dire
d'écrire une nouvelle voilà. D'après un titre de
ouais.
vos chansons.
C'est-à-dire en fonctionnant. Comme moi, des fois, je partais d'une idée ou d'une phrase dans un roman, à contrario, d'utiliser simplement ce titre pour construire un texte. Alors, des fois, c'était un peu ingrat, hein, parce que, par exemple, j'avais confié à un ami écrivain le titre « L'Inuktitut », donc la langue inuite. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que j'écrive sur l'Inuktitut ?» Mais bon, il s'en était bien tiré. Et en réponse à ce projet-là, il y avait l'idée de faire un cut-up en utilisant des phrases de ces nouvelles et en construisant un morceau qui s'appelait « Tout n'est plus comme avant » puisque c'était un jeu avec « Tout sera comme avant ». Bon. Donc ça, c'était vraiment l'album où, l'imprégnation de la littérature était la plus forte et où je me suis dit par la suite, il faut quand même que tu fasses un petit peu attention, que ça ne devienne pas un systématisme en fait, parce que c'est en train d'en devenir un.
Certains auteurs, et certains qu'on connaît très bien ici, comme Arnaud Catherine, comme Olivier Adam, qui ont participé à l'élaboration de ce festival, comme Brigitte Giraud, qu'on a cité tout à l'heure, revendiquent à l'inverse de trouver aussi de l'inspiration dans vos textes. Donc il y a vraiment un va-et-vient et des allers-retours.
Je suis très fier, c'est très gratifiant. Ce sont des gens qui écrivent formidablement bien et qui sont inspirants. Donc... C'est une espèce de dialogue, en fait. C'est aussi, je pense, un peu... Alors, même si on n'a pas tous le même âge, la plupart sont plus jeunes que moi, mais c'est un échange, c'est générationnel. Il y a aussi un rapport à la musique, il y a aussi un rapport à une littérature qui n'est pas qu'une littérature, justement, un regard tourné vers les grands classiques, mais plus sur aujourd'hui, ce qui s'écrit aujourd'hui.
Sur le contemporain. Vous entendre aussi sur, puisque vous faites les deux désormais, la différence entre l'écriture d'une chanson et l'écriture plus littéraire. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça soulève comme question différente? Quelle énergie différente ça mobilise?
Tout simplement, l'écriture de chansons, l'écriture du texte est un point de départ. Alors, je dis toujours un peu la même chose par rapport à ça, mais c'est le plus juste, je crois. Et le, c'est un point de départ vers un travail autour du mot, autour du son du mot, autour de la musicalité, des arrangements. Et l'écriture littéraire, c'est le point d'arrivée, c'est le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien pour la soutenir. Donc, pour moi, l'écart entre les deux types d'écriture est énorme. Ça, c'est deux activités. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça se concrétise en termes pratiques. J'écris mes chansons au stylo, au feutre, et j'écris des textes en prose directement sur un écran d'ordinateur. Donc, c'est vraiment rien que dans le... Je pense que c'est assez parlant sur le... Je ne peux pas, par exemple, écrire... J'ai jamais commencé un texte de ce livre-là à la main.
D'accord, tout ça, c'est...
J'ai besoin de visualiser un petit peu la page, en fait, ce qu'elle va... C'est pas on ne visualise pas le texte quand on l'écrit, je trouve, de façon manuscrite.
Donc, et vous expliquez que la chanson va vers une construction, qu'elle est destinée à être étoffée, alors qu'au contraire, en littérature, il faut plutôt élaguer, alléger, couper, et qu'il y a ce va-et-vient qui se fait. Est-ce que vous êtes conscient que dans ce livre-là, il y a certains petits paragraphes qui pourraient être des textes de chansons ?
Non. Je ne suis pas conscient.
Parce que moi, quand j'ai lu, à plusieurs reprises, j'ai eu cette sensation-là. Je vous lis celui, page 175, et vous me direz si ça pourrait ou pas. Corde ferme à l'abandon, autre titre de chanson. Chaque année, parcourir les mêmes sentiers, longer les mêmes bords de rivière, gravir la même colline. Traquer la trace des jours passés, la permanence de la lumière, son apposition sur les écorces, l'herbe, les graviers. Et la place dévolue à l'ombre, dans les sous-bois, sous les hangars de paille, écorchant les chevilles.
Ouais, mais en fait, c'est comme une extension de la chanson elle-même, à laquelle le texte se fait référence. Donc, j'ai l'impression que oui, la chanson, c'est une autre façon de la formuler. Donc, il n'y aurait pas un retour sur sur un texte de chanson, puisque la chanson est déjà écrite, en fait. Mmh.
Mais du coup, il y a une sorte de poésie qui l'entoure, qui se diffuse dans vos phrases.
Oui, en fait, du coup, par exemple, hier, je l'ai lu, ce passage-là, parce que c'est un des plus musicales. C'est un des plus, justement, celui... Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, il y avait toute une série de choses que j'ai lues hier sans accompagnement musical, mais ce passage-là était accompagné de musique. Donc, il y avait cette idée-là, ouais.
Vous avez écrit des chansons pour d'autres chanteurs, donc pour vous-même et pour d'autres chanteurs, et vous expliquez quelque chose qui est assez étrange, c'est que vous avez un rapport très différent les textes sont pour d'autres que quand ils sont pour vous. Vous écrivez « Chanter des textes énigmatiques ne me posait pas de problème, mais dès lors que j'écrivais pour un ou une autre, il fallait des mots précis, la métaphore tenue en bride, ce qui n'était pas sans incidence sur mes propres disques. » Je vais vous entendre sur ce passage-là, c'est assez étrange.
Ben oui et non, parce que en fait, quand on écrit pour d'autres voix, on se met au service tout simplement, et il n'y a pas cette. Moi, j'accepte par rapport à moi. J'aime beaucoup l'opacité. J'aime bien des fois pas comprendre ce que j'ai écrit, non pas par plaisir pervers ou je ne sais quoi, mais parce que c'est troublant. Qu'est-ce qui fait que finalement on ne sait pas trop ce qu'on a voulu dire, mais ça semble susciter des petits mouvements, mini-mouvements tectoniques en soi, quelque chose qui remue un peu, et qu'on a envie de chanter, qu'on a envie de dire. Mais par contre, quand j'écris pour d'autres personnes, il n'y a pas du tout ce même rapport, plus un rapport de mise à distance, et de finalement avoir la voix de la personne en tête, et se dire, qu'est-ce que j'aimerais entendre comme mot dans la bouche, avec cette voix-là. Et c'est assez passionnant. Et c'est une espèce de... Après, quand on écrit pour d'autres, une fois que la chanson est donnée, qu'elle a été validée, soi-même, on n'a presque plus d'histoire avec la chanson. C'est l'interprète qui va vivre sa vie avec. Donc le rapport, il n'est pas le même. Je sais que quand j'écris pour moi et que je rends public la chanson, potentiellement, elle est là pour participer à ce travail de long terme dont je vous parlais.
Vous racontez cette anecdote, notamment avec la chanson En Surface que vous aviez écrite pour Étienne Dao, qu'il a eu du mal à s'approprier dans un premier temps, Et du coup, vous avez du mal vous-même à vous la réapproprier. Et ensuite, il l'a rechantée.
Alors ça, c'était Immortel de Bachung.
Ah, c'est pour oui. Bachung, pardon.
Désolé.
Non, vous faites bien de me corriger. Donc c'est pour Immortel de Bachung, pardon. Oui. Donc vous écrivez cette chanson pour lui. Mm. Il en fait plusieurs versions et il a du mal à en trouver une définitive qui lui convienne. Oui. Et du coup, vous vous sentez l'hésitation de pouvoir la reprendre. Et finalement, vous dites, en fait, c'est la chanson de Bachung. Celle-ci, elle lui appartient.
Oui.
Et du coup, il y a vraiment une idée de destination du texte qui, du coup, vous revient avec difficulté. Et vous finissez par l'adopter.
Oui, complètement. Ouais. Et il y a une drôle d'histoire avec cette chanson, puisque là, je crois que demain, la version de Bachung va être rendue publique. Donc, c'est très bizarre, finalement, parce qu'elle a vraiment été composée pour lui. Et pour moi, c'était une chanson qui était... un peu importante, un peu saillante, on va dire. On se rend bien compte quand on écrit une chanson si elle a un réel poids, une portée potentiellement universelle ou pas. Et là, je trouvais qu'il y avait un truc vraiment assez fort. Donc j'étais fier de la lui proposer. Il l'aimait beaucoup, mais je pense que le propos devenait un peu lourd puisque ça aurait été pour son dernier disque qui a précédé de peu finalement sa disparition. C'était une déception. Donc ça a été vraiment un travail de réappropriation. Et je parle dans le bouquin du fait qu'on avait fait une vidéo sur cette chanson. Et dans la vidéo, je cours. Et je me suis dit, en écrivant le texte, mais en fait, je courais après ma chanson. Et c'est longtemps, ça a été ça, cette espèce de finalement, je me sentais comme ayant usurpé, en quelque sorte, ayant volé cette chanson. C'était assez... un sentiment assez étrange, en fait.
Là, vous évoquez ce clip, c'est l'un de mes passages favoris de votre livre. Donc, pour la chanson Immortelle, tournage du clip dans la campagne bruxelloise, de nuit, à l'arrière d'un camion, sur une petite route. Voilà, donc il faut imaginer Dominique A courant sur une route la nuit. Autour, ce sont des champs de boue. Et voilà ce que vous écrivez. Immortelle. Je courais dans une nuit d'encre que contrariait juste un projecteur à l'arrière de la camionnette. Une assistante jetait des poignées de farine dans un ventilateur, produisant à l'écran l'effet de vapeur blanche qui m'enveloppait. Après quelques prises, nous avions trouvé le bon rythme. La vitesse du véhicule réglée sur mon pas de course, la caméra face à moi, alors que je faisais du playback sur la musique sortant d'une enceinte. Autour de nous, des champs de terre retournés, un paysage d'hiver, balayé de temps à autre par des phares sur une autre route. Quelques heures plus tôt, j'étais encore en studio à mixer un titre de l'album en cours. Le label avait urgemment besoin d'un clip pour préparer la sortie. Immortel avait été choisi comme extrait et Gaëtan sollicité pour faire des images dessus. Il fallait une idée simple, un tournage rapide aux environs du studio et il m'avait proposé cette course nocturne, épousant le rythme soutenu du morceau. Nous avions tourné jusqu'à 2h du matin sur une route de campagne peu fréquentée de nuit à la sortie de Bruxelles. Je n'avais pas couru autant depuis des années et le fis sans effort. Sans doute le petit vent hivernal me stimulait-il. Mes mollets paieraient la facture le lendemain. Alors, entre les courbatures du lendemain et alors moi, cette image de l'assistante qui jette de la farine à l'arrière du camion. Donc, quand vous pouvez voir le clip sur Internet, hein, Immortel. Donc, vous voyez, monsieur Dominique A, très classe, qui court. Et puis, vous allez avoir des petits nuages qui font quelque chose d'assez mystérieux, comme ça, dans la nuit. Et en fait... grâce au livre, vous allez comprendre que ce sont des voilà, il y a des poignées de farine jetées dans un ventilo. Moi, j'adore que vous racontiez ça.
Oui, c'est marrant. Bah, c'est des moments justement qui sont un peu anecdotiques, mais qui restent et finalement qui sont assez qui allègent des fois un peu le texte. Moi, je trouve en fait un des enjeux d'un texte d'un livre comme ça aussi pour moi, c'est d'essayer de rendre des choses qui sont un peu qui sont pas de la matière noble pour la littérature, d'essayer d'en faire quelque chose. De parler d'albums, de sortir un disque, d'être en studio, c'est pas très littéraire, j'ai envie de dire. C'est assez factuel. Y a une forme de quelque chose de pas de grossier, mais qui fait pas rêver, je trouve. Et c'est d'essayer justement à partir de ces quelques mots et quelques faits, d'essayer d'écrire, de faire la littérature, un peu.
Mais vous y arrivez très bien. En tout cas, on s'en réjouit. Juste vous lire le texte Immortel, en tout cas le début, pour vous le remettre en tête. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous nos faces avinées? Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient, qu'en se mordant la bouche, le goût en revenait, et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas? Tu me donnais la main pour boire de ce sang-là. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Voilà cette très très belle, très très belle chanson qui a évidemment marqué Merci. Votre parcours. Peut-être un tout dernier point sur la nostalgie. On ne peut pas tellement la contourner puisqu'elle elle vous habite depuis toujours, elle marque votre travail et vous avez un passage très beau que je voudrais finir par lire. Mais ce sentiment-là, il vous accompagne tout le temps. Est-ce que c'est votre nature, votre émotion première?
Moi, je pensais plus la mélancolie que la nostalgie. Dans la mesure où je n'ai pas de regret d'une période, d'un paradis perdu. Ou...
C'est tout à fait la mélancolie.
Ouais, c'est plus la mélancolie en fait qui ne bouge pas. Le niveau est stabilisé. Après, ma vie, tout va bien. Hein, mais je constate que lorsque je m'exprime dans quelque forme artistique que ce soit, c'est ça qui sort. Donc, à la limite, le fait que ce soit pas en concordance avec ma vie, qui par ailleurs est agréable, je me dis, je refuse aujourd'hui. Enfin, j'ai laissé tomber l'idée de comprendre pourquoi. Je peux juste constater et faire en sorte que de cette mélancolie-là, de la poésie ressorte et que ce ne soit pas quelque chose de finalement où ça tire vers le bas, tout simplement.
La musique était imbriquée à chaque portion de mon existence. Elle avait partie liée avec tout ce que j'avais vécu depuis un quart de siècle. Les rencontres, les amitiés, les amours. La mélancolie imprégnant chacun des textes que j'écrivais, chacune des notes qui les portaient, était d'autant plus étrange. Je ne luttais pas contre, la laissais prendre ses aises, mais je m'étonnais parfois qu'elle ne se soit pas étiolée avec les années, compte tenu de l'existence que je menais. Elle paraissait imperméable aux événements de ma vie et à mes humeurs, rivée à moi, quoi qu'il advienne, dès lors que je prenais le stylo ou donnais de la voix. Comme inscrite de façon indélébile depuis le plus jeune âge, indélogeable, inentamée. Chaque fois que je cherchais à lui faire faux bond en tentant d'aller sur des terrains plus légers, on me faisait comprendre que je me perdais. Il fallait qu'elle soit là pour que j'y sois moi-même. Merci beaucoup, Dominique.
Merci,
Canet.
Merci à vous.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre attention. Il y a un micro à votre disposition si vous voulez profiter de l'occasion pour échanger avec Dominique Canet. À l'issue de cette rencontre, est-ce que certains veulent prendre le micro? Il n'y a pas de main qui se lève. Alors je vais vous inviter, Dominique, à rejoindre la table de la librairie Le Poivre d'Âne qui met vos livres à disposition. Merci beaucoup pour votre venue et votre présence.
Merci
et bonne fin de soirée. Merci.
Bonne fin de soirée, au revoir.